Maintenant, je vais présenter le conférencier de ce soir, M. Wang Chaoxi. M. Wang Chaoxi est né en 1944. Il est ministre conseiller scientifique et technique à l'ambassade de Chine en France. Pour ce qui est de son parcours, il a reçu un diplôme de l'université de Tsinghua. Puis, en 1983, il a reçu le diplôme de docteur d'ingénieur de l'INPG à Grenoble. Entre 1984 et 1986, il est devenu directeur des affaires européennes. Entre 1986 et 1990, conseiller de la science et de la technique à l'ambassade de Chine en France. Entre 1990 et 2001, donc pendant 10 ans, directeur général du département de la coopération internationale. Et depuis 2001, il est ministre conseiller scientifique et technique à l'ambassade de Chine en France. Monsieur Wang Chaoxi est spécialiste des développements scientifiques et technologiques de la Chine contemporaine. Il a écrit de très nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Et depuis 1998, il est officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Wang Chaoxi, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir parler devant un public si important et si nombreux d'ailleurs. Parler sur donc, la recherche en Chine et son ouverture vers l'extérieur. Je voudrais saisir cette occasion à remercier les responsables de l'Université de tous les savoirs d'organiser cette série de conférences concernant la Chine. D'ailleurs, je souhaiterais vivement le plein succès de cette manifestation. Ce soir, donc, je vais vous parler sur la recherche en Chine et son ouverture au monde. Alors, en ce qui concerne les thèmes, je voudrais donc parler d'abord sur la situation économique en Chine. Quoique je ne sois pas donc un grand spécialiste en économie, mais quand même, l'économie, c'est la base du développement d'un pays. Donc, il faut que je vous parle très brièvement. Et puis après, les situations de la science de la technologie en Chine. Troisièmement, les programmes nationaux. Et puis après, la coopération internationale, d'une vue générale. Alors, donc, la coopération sino-européenne, parce que la France fait partie de l'Union européenne. Et puis, finalement, je vais concentrer mes efforts sur la coopération, bien entendu, sino-française. Voilà, donc, pour parler de l'économie chinoise, d'abord, je voudrais vous présenter quelques chiffres sur donc, le PIB total de la Chine, les chiffres de quelques années, depuis quelques années. D'abord, donc, depuis plus de 10 ans, la Chine a connu une croissance économique assez considérable. Alors, donc, vous voyez, donc, en 1996, le PIB total, à peu près, donc, de 416 milliards de US dollars. Alors, en l'an 2000, je viens d'avoir ce chiffre, donc, c'est à peu près 1233 milliards. C'est-à-dire, en 6 ans, on a pu doubler le PIB total. Alors, en ce qui concerne donc, le taux de croissance, alors, donc, depuis plus de 10 ans, la Chine a connu aussi un taux de croissance supérieur de 7%. Vous voyez donc les chiffres, quelques chiffres donc, concernant le taux de croissance de ces dernières années. Alors, donc, en l'an 2000, alors, je viens d'avoir ce chiffre, c'est de l'ordre de 8%. Alors, donc, vous voyez, donc, c'était donc un chiffre toujours à supérieur de 7%. Alors, pour vous donner donc une idée sur l'ensemble des situations économiques mondiales, alors, donc, voici quelques chiffres. Ce sont des chiffres de 2001. Le PIB total, les États-Unis, c'est de 10,143 milliards de US dollars, c'est la puissance mondiale numéro un. Derrière, c'est le Japon, après l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et puis la Chine. La Chine, en 2001, est déjà devenue la sixième puissance du monde, derrière la France. La France est la cinquième. Et en ce qui concerne le taux de croissance, vous voyez donc la Chine en 2001, c'était 7,3% et les chiffres des autres pays. Alors, quelques chiffres sur le commerce extérieur chinois. Alors, je vous donne trois figures. D'abord, la totalité, et puis après, exportation et importation. Le commerce extérieur de Chine a connu également une croissance très importante. Alors, donc, en 1980, le chiffre était de l'ordre de 50 milliards de US dollars. Et puis en 2002, alors c'est à peu près donc 620 milliards de US dollars. Et l'exportation est aussi très optimiste. Et puis donc l'importation, ce qui est remarquable, c'est que depuis quelques années, la Chine est toujours excédentaire, c'est-à-dire l'exportation excède toujours l'importation. Alors, ce sont des chiffres concernant la Chine, l'économie de la Chine. Voici donc, je vous présente la situation de la science et de la technologie en Chine. Alors, le gouvernement chinois attache une grande importance sur le développement de la science et la technologie en fixant des stratégies importantes. Alors, une stratégie qui se dit comme cela, le redressement du pays par la science et par l'éducation. La deuxième stratégie, c'est le développement durable. Alors, voici des chiffres des dépenses de R&D en Chine. Recherche et développement. Alors, en 1996, la dépense est de l'ordre de 40 milliards de yuan. Yuan, c'est la monnaie chinoise. Alors, ce qui représente à peu près 0,6% de notre PIB. Mais en l'an 2000, je n'ai pas de chiffres donc, pour 2002. En l'an 2000, c'était à peu près donc, 89 milliards de yuan. Alors, ce qui représentait 1% de notre PIB. C'est-à-dire, en 5 ans, on a pu doubler la dépense nationale envers la recherche et le développement. Voici donc, pour vous donner des idées sur le pourcentage de dépenses en recherche et développement sur le PIB, je vous donne quelques chiffres. Comme je n'ai pas de chiffres sur la même année, juste pour votre référence, je vous donne des chiffres selon ce que je savais. Alors, par exemple, donc, la Russie, c'est de l'ordre de 0,94%. C'est des chiffres très, très anciens, 97. Alors, donc, pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon, c'est presque supérieur à 2%, sauf le Royaume-Uni. Alors que l'Inde et les États-Unis, on a des chiffres sur l'Inde et les États-Unis, et la Corée du Sud. Finalement, la Chine, j'ai des chiffres donc, sur 2000, c'est 1%. Vous voyez donc, on est encore, l'investissement envers la recherche et le développement, c'est encore insuffisant en comparaison avec les autres pays. Voilà donc la répartition des dépenses. D'abord, par secteur, vous voyez donc, plus de 60% de notre dépense nationale en recherche et développement est destinée aux entreprises. Alors, donc, 28,80% pour les instituts de recherche, 8,60% pour les universités. Alors, il y a 2,30% pour les autres. En ce qui concerne la répartition par activité, alors, donc, 77%, plus de 76% destinés au développement et 17% pour la recherche appliquée. Il n'y a que 5,20% pour la recherche fondamentale. Je pense que c'est largement insuffisant. Alors, pour les années à venir, il faut renforcer les soutiens envers la recherche fondamentale. D'ailleurs, ce que je pense que le gouvernement chinois a déjà pris des mesures en faveur de recherche fondamentale. Alors donc, les effectifs du personnel qualifié, ce sont des chiffres de l'an 2000. Totalement, on a de 21 millions, plus de 21 millions de personnels qualifiés, dans lesquels il y a plus de 5,5 millions des ingénieurs. Il y a 0,67 millions des ingénieurs et techniciens agronomes. Il y a plus de 3 millions des médecins. Il y a 0,28 millions des chercheurs et plus de 11 millions des enseignants. Alors, maintenant, sont l'état universitaire, donc j'ai des chiffres plus récents, c'est de l'an 2001. Alors, le nombre d'universités en Chine, c'est de 1225 en l'an 2000. Alors, le nombre d'étudiants, c'est de 7,19 millions. En ce qui concerne les étudiants de troisième cycle, ceux qui préparent les thèses, c'est de 0,39 millions. Alors, je vous donne donc une figure concernant la répartition disciplinaire des étudiants chinois. Ce sont des chiffres de l'an 2000. Alors, voyez donc ce qui est comme cela. Donc, 6% pour la médecine, 3,20% pour l'agriculture. Il y a plus de 37% pour l'ingénierie. Il y a plus d'étudiants qui souhaiteraient travailler chez les industries. Alors, pour la science naturelle, 10%. L'histoire, 1,40%. Littérature, plus de 15,5%. Éducation, 4%, un peu. Les droits, 4,60%. Et pour l'économie, c'est plus de 16%. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui souhaiteraient travailler comme économiste chez les entreprises ou bien dans les gouvernements. Alors, ce chiffre était largement donc inférieur de ce chiffre il y a quelques années. En ce qui est dans la philosophie, c'est de 0,10%. Alors, en ce qui concerne donc la recherche et développement elle-même, alors bien entendu, la recherche se fait donc à l'université, alors également à l'Académie des sciences, parce qu'en Chine, on a une Académie des sciences dans laquelle il y a plus de 100 instituts. Alors, il y a également l'Académie des sciences sociales, parce qu'en Chine, on a deux académies qui sont différentes, qui sont séparées. Il y a des instituts nationaux de recherche, comme donc l'Institut de recherche médecine et l'Institut de recherche agronome. Il y a des instituts de recherche appliqués, il y en a beaucoup. Et aussi, il y a des organismes de services publics à but non lucratif, comme la sismologie, la météorologie, la métrologie, etc. Et finalement, bien entendu, la recherche se fait chez les entreprises. Alors, au sein du gouvernement, ce qui est important, c'est que donc, depuis quelques années, on a créé un groupe interministériel pour la recherche et le développement qui est présidé par notre Premier ministre. Alors, il y a beaucoup de ministères qui sont membres. Par exemple, le ministère de la Science et de la Technologie, le MOST, qui est donc responsable pour la recherche civile, la COSTIND, qui est pour la recherche militaire, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie informatique, ministère de Transport, ministère de Chemin de Fer, et aussi donc l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, et aussi donc l'Académie des sciences, et NSF, c'est la National Science Foundation, donc la Fondation nationale pour la science naturelle. Je vais reparler de ça après. Il y a bien entendu le ministère de financement, de finances, et aussi donc la Commission d'État pour le plan, donc SPC, State Planning Commission. Donc, au sein de ce groupe interministériel, ce groupe interministériel se réunit quelques fois par an pour donc fixer la grande stratégie et définir les gros projets, les programmes nationaux. Alors, justement, pour les programmes nationaux, alors, il y a 300 sortes de programmes. D'abord, la recherche fondamentale, ce qui est à la base de tous les déploiements en sciences et en technologie. D'abord, donc, il y a un programme qui s'appelle 973, qui est donc un programme gouvernemental défini par le gouvernement, qui est visé à développer sur les projets prioritaires fixés par le gouvernement. Alors, il y a aussi donc la Fondation nationale de la science, de sciences naturelles, qui est donc pour le but de favoriser et soutenir les chercheurs, professeurs de leurs idées, de leurs propres idées, les projets venant de leur propre tête, parce que vous savez, la recherche fondamentale vient très souvent des idées des personnes très qualifiées. Alors, donc, cette fondation a été créée pour soutenir leur recherche, leurs activités. Il y a aussi la recherche et développement appliqué. Il y a un programme qui est très important qui s'appelle 863. J'y reviendrai plus tard. C'est un programme de haute technologie qui est donc démarré, qui a été démarré en mars 86, ce qui expliquait pourquoi donc il s'appelle le programme 863. Il y a aussi donc le programme de recherche de la technologie clé. Alors je vais donc vous présenter plus tard des priorités de tous ces programmes. Alors il y aura aussi donc une autre sorte de programme qui s'appelle donc les programmes pour les industrialisations. Alors il y aura donc un programme SPARC programme en français c'est étincelle. Ce programme a été démarré donc dans les années 80, c'est plus exactement 85, qui a visé pour soutenir donc l'économie rurale. Comme vous le savez, au fur et à mesure des développements économiques, notamment agricoles, sur la campagne, on n'a plus besoin tant de paysans travailler sur les terres. Alors, donc, il y a plus de moyens. Alors, donc, le SPARC programme est donc s'est développé pour soutenir les paysans en leur donnant d'abord la technologie, deuxièmement, la formation, troisièmement, un peu de soutien de financement. Ce programme, on a démarré il y a à peu près, donc, plus de, à peu près 20 ans. On a eu un très grand succès. D'ailleurs, on a organisé des conférences internationales en présentant les expériences de la Chine en développant l'économie rurale. Et aussi donc, un autre programme qui s'appelle le programme TORCH. Programme TORCH a visé pour développer la haute technologie en soutenant les entreprises. Et donc, une des conséquences importantes de ce programme, c'est-à-dire donc 53 parcs nationaux de haute technologie ont été créés, dans lesquels les industriels, les universitaires, les chercheurs travaillent ensemble de développer des produits de haute technologie. Alors, donc, je voudrais vous parler un petit peu sur le programme 863. D'abord, les domaines prioritaires de ce programme et technologie de l'information et des télécommunications, biotechnologie et agriculture avancée, troisièmement, environnement et ressources naturelles, quatrième, la science des matériaux, il y a aussi énergie, technologie de l'espace, j'y reviendrai sur l'espace, en précisant les programmes nationaux, et aussi donc océanographie, et finalement la technologie optoélectronique. Alors aussi donc à part Donc, les priorités, le programme 863 a aussi donc fixé quelques projets pilotes. Alors, il y a microélectronique, charbon propre, parce que la Chine est le numéro un comme consommateur et producteur du charbon. Pour préserver notre environnement, il faut développer donc la technologie de combustion propre de charbon. Il y a aussi donc la technologie informatique pour la manufacture, véhicules électriques, génome fonctionnel, nouveaux médicaments et vaccins, nouvelles technologies pour la protection de l'eau. Alors, tout à l'heure, je vais parler donc le programme national donc 863. Maintenant, donc, je vous présente brièvement les 12 projets de clés de démonstration industrielle. C'est que, donc, aussi donc, toujours pour la recherche appliquée. D'ailleurs, d'abord, donc, il y en a 12 comme priorité. D'abord, le circuit intégré de très grande puissance et de génie logiciel. D'ailleurs, sur ce secteur, les chercheurs chinois ont réussi de produire donc, le CPO, donc chinois, 100% chinois, à très grande puissance. Aussi la sécurité informatique, génome fonctionnel et biobus, véhicules électriques, ça a été donc inclus dans le programme 863, le système de train à lévitation magnétique. C'est donc, vous savez, donc, dans le monde entier, il y a deux genres de systèmes pour les trains rapides. D'abord, donc, le TGV français, parce que ça marche très bien, la technologie de TGV. Il y a aussi donc, le train à lévitation magnétique, à la suspension magnétique. La Chine vient de réaliser il y a une ligne de ce genre de technologie. Il y a une dizaine de jours, on a inauguré, c'était donc à Shanghai. À Poudon, donc une trentaine de kilomètres. Alors, cette technologie est très, très sophistiquée. Donc, le train, donc, la vitesse a dépassé donc, les 400 kilomètres. L'inconvénient, que ça coûtait trop cher. Alors, il y a le médicament innovant et la modernisation de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise paraît-elle très efficace, notamment pour les Chinois, mais parce que donc elle est un peu vieille, donc il faut la moderniser. Alors donc il y a la transformation fine des principaux produits agricoles, développement de la filière du lait, sécurité alimentaire et aussi agriculture économe en eau. Vous savez, la Chine est un grand pays agricole dans lequel donc, plus de 60% de la population sont les paysans. Alors, donc, développer notre industrie agricole est toujours le souci du gouvernement chinois. D'ailleurs, pour nourrir notre 1,3 milliard d'habitants, c'est une mission très lourde. Alors, donc, ces quatre projets sont destinés à développer le secteur agricole et agroalimentaire. Il y a la dépollution de l'eau. Il y a aussi donc, les normes techniques majeures. Alors, donc, comme je vous ai promis, alors, je vous parle un peu donc, sur le programme de la technologie spatiale chinoise. Alors, donc, d'abord, on va retracer l'histoire de ce développement de la technologie spatiale en Chine. Alors, donc, le premier satellite chinois a été lancé donc, le 24 avril 1970, qui s'appelle Dongfanghong. Alors, jusqu'en l'an 2000, 50 satellites chinois ont été lancés et plus de 20 satellites étrangers lancés. Donc, on a développé également 12 types de lanceurs dits longue marche. Et aussi, on a développé plusieurs types de satellites. Par exemple, les satellites de télécommunication, les satellites d'observation de la Terre, les satellites de météo et les satellites de navigation et positionnement. Alors, on a aussi donc établi un système complet du contrôle spatial, que ce soit à partir de la Terre et aussi des océans. Et aussi, on a développé un système chinois de navigation et positionnement par satellite. Ce système qui s'appelle Beidou. Il y a deux satellites actuellement qui sont en fonction. Alors, on a formé un ensemble d'équipes compétentes, de chercheurs, ingénieurs, techniciens. Il y a plus de 200 000 travailleurs dans le secteur de l'espace. Alors, donc, parce qu'il y a quelques jours, même pas une semaine, on a récupéré donc, le quatrième vaisseau chinois qui s'appelle Shenzhou 4. Alors, donc, je vous parle donc, en particulier donc, les vaisseaux spatiaux. Donc, le programme qui s'appelle Shenzhou. Alors, le 20 novembre 1999, le premier vaisseau spatial Shenzhou 1 a été lancé, qui a fait donc le 14 tours sur la Terre en 21 heures. Alors, le 10 janvier 2001, le deuxième vaisseau Shenzhou 2 a été lancé, qui a fait 108 tours en 7 jours. Le troisième, qui fait 108 tours en 7 jours, qui a été lancé le 25 mars 2002. Et puis, donc, le quatrième, qui a été lancé tout récemment, le 30 décembre 2002, qui s'appelle Shenzhou 4, alors qui a été récupéré le 5 janvier 2003, qui lui a fait aussi 108 tours sur la Terre en 6 jours et 18 heures. Et alors, dans lesquels on a fait des expériences scientifiques en sciences de matériaux, sciences de la biotechnologie et sciences de la vie. On a d'ailleurs imité les situations exactes des vols habités pour préparer le prochain lancement du vol habité. Alors, nous espérons que le premier vol vaisseau habité serait donc lancé avant la fin de cette année. Alors, je vous présente donc les objectifs du développement de notre programme de technologie spatiale. Il y en a 7 comme objectifs. D'abord, la mise en place d'un système stable et durable d'observation en relief et en état dynamique, couvrant toute la surface de la Terre et l'atmosphère et les océans. Deuxièmement, établissement d'un système indépendant de télécommunication par satellite. Troisièmement, le déploiement d'un système de navigation et positionnement par satellite. Et quatrièmement, améliorer les performances de nos lanceurs. Et aussi, donc, cinquièmement, donc, le vol habité. Le but final des chercheurs chinois, c'est de mise en orbite d'une station spatiale chinoise. Alors, maintenant, aux chercheurs chinois qui travaillaient, et aussi aux astronautes, travaillaient sur une longue durée. Aussi, donc, établir un système complet de télédétection. Et le septième, le dernier, c'est de développer la science de l'espace en microgravité, les sciences de la vie et sciences des matériaux. Voilà, donc, ce sont mon troisième sujet, les programmes nationaux. Voilà, donc, maintenant, je vais entrer tout de suite sur la coopération internationale entre la Chine et le monde entier. Alors, donc, d'ailleurs, donc, d'abord, la situation. La Chine a signé, donc, les accords de coopération gouvernementale, c'est-à-dire officiels, avec 96 pays jusqu'à maintenant. On a des échanges, des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs, des professeurs, avec plus de 152 pays. Alors, la coopération avec presque toutes les organisations internationales et régionales, parce que donc la coopération, donc l'accord, c'était donc la coopération bilatérale, et maintenant donc il s'agit de la coopération multilatérale. On a donc depuis 1978, l'année donc du commencement de l'ouverture vers l'extérieur de Chine, on a envoyé plus de 400 000 étudiants à l'étranger. Alors, la coopération couvre tous les domaines de la science et de la technologie. Alors, en ce qui concerne la modalité des coopérations, il y a les échanges des personnes, chercheurs, professeurs, étudiants, post-docs, etc. Aussi, la recherche en commun, l'organisation conjointe des conférences, séminaires et colloques. Il y a aussi donc, l'aspect de laboratoire conjoint. C'est un aspect tout nouveau. Alors, je vais reparler tout ça en vous donnant des images sur la coopération sino-française. Alors, il y a R&D industriel. Alors, ce qui est plus important, donc, c'est que la Chine souhaitait donc, de coopérer avec le reste du pays du monde en respectant donc, un principe. C'est le principe de droit de propriété intellectuelle. Alors, donc, le respect des droits de la propriété intellectuelle industrielle est un préalable à la coopération. D'ailleurs, c'est un principe reconnu par tous les chercheurs et tous les professeurs. Alors, en ce qui concerne la structure de la coopération internationale, d'abord, on a des coopérations entre les gouvernements, ce qu'on appelle la coopération officielle. Il y a la coopération régionale, entre les provinces chinoises et les régions, et coopération institutionnelle. Donc, il y a des arrangements, il y a des conventions, il y a des MOU donc, signés entre les instituts de recherche. Il y a la coopération personnelle, c'est-à-dire entre les professeurs. Il y a des coopérations industrielles. Alors, les domaines de coopération, d'abord les recherches fondamentales, la chimie, la physique, l'astronomie, mathématiques, etc. Il y a bien entendu, il y a la biologie, la biotechnologie, sciences de la vie et de la médecine, les matériaux, l'énergie, l'environnement, technologie de l'information et des télécommunications, l'espace, sciences de la Terre et l'histoire de la science. En ce qui concerne le financement, alors les ressources venant du gouvernement, des régions, des entreprises, des fondations et des organisations internationales. Alors, le principe, c'est le partage entre les partenaires. Par exemple, le parti d'envoi qui serait responsable, qui est en charge des voyages internationaux, c'est-à-dire ils vont payer donc les billets d'avion pour les chercheurs. Et la partie d'accueil est responsable de tous les frais de séjour, les hôtels, la nourriture, le voyage à l'intérieur du pays de Chine, etc. Et alors, aussi le partage des frais de fonctionnement, de recherche et d'équipement. Alors, maintenant, je vais entrer donc, dans mon cinquième sujet, c'est la coopération entre la Chine et l'Union européenne. Je vais vous parler donc, très brièvement, et je vais donc laisser plus de temps en parlant de la coopération sino-française. Alors, vu l'ensemble de la coopération entre la Chine et l'Union européenne, alors, l'Union européenne est un des prioritaires principaux de la Chine. On a des relations très étroites, très actives de longue date. C'est-à-dire, on a commencé notre coopération en 1981. Alors, on a créé des groupes de travail ou des comités de coordination en sciences, technologie, en énergie, en société d'information, etc. et aussi en environnement. Alors, de lors, plus de 300 projets ont été réalisés. Plus de 4000 personnes, chercheurs, ingénieurs y compris, ont été échangés. Alors, 130 millions d'euros ont été investis par la Chine et aussi par l'Union européenne. Ce qui est très significatif, c'est que donc en 1998, la Chine et l'Union européenne ont signé un accord de coopération en sciences et la technologie. Et sur donc, c'est un accord très important, ce qui a permis aux chercheurs chinois de participer au programme cadre PCRT et aussi nos programmes nationaux, comme je vous ai présenté, le 863, 976, ont été aussi ouverts pour nos partenaires européens. Alors, d'ailleurs, j'ai eu donc la chance d'être le chef négociateur pour cet accord, ce qui est donc constitue une nouvelle plateforme pour la coopération sino-européenne. Alors, les domaines sont activés très rapidement, la biotechnologie, agriculture, santé, environnement et la gestion des ressources naturelles. Donc, ça donc, a été inclus sur le programme INCO. Le programme INCO est un programme qui est destiné pour la coopération entre l'Union européenne et les pays en voie de développement. Alors, il y a aussi énergie, société d'information, programme Galileo. Alors, justement, le programme Galileo, c'est un programme purement européen, mais l'Europe a invité la Chine d'y participer. Enfin, après une réflexion importante, le gouvernement chinois a décidé d'y participer. Alors, d'ailleurs, le gouvernement chinois a déjà donné le mandat du commencement de la négociation. Et puis maintenant, on attend donc le mandat de la part des Européens, parce que vous êtes trop nombreux, vous êtes 15, à plutôt, donc ce serait 25. La décision est très lente. Alors, donc, il y a aussi donc, le programme ITER. Le programme ITER, donc, il s'agit d'un programme international concernant donc, la fusion thermique contrôlée pour résoudre dans le futur le problème de l'énergie. Donc la France et l'Union européenne est donc un membre officiel. Il y a aussi le Canada, le Japon, la Russie. Je pense que les États-Unis ils vont revenir parce qu'ils sont partis, ils vont revenir. Le gouvernement chinois a déjà décidé de participer. D'ailleurs, donc, je pense que donc, les chercheurs français souhaitent vivement que les chercheurs chinois soient donc inclus dans ce programme, selon donc, les contacts que j'ai eus. Alors, donc, en ce qui concerne la modalité de coopération, il y a le projet de R&D, il y a l'étude commune, il y a les projets de démonstration, il y a les conférences, séminaires, workshops, réunions, etc. Alors, donc, voici donc le résultat de la participation des chercheurs chinois au 5e PCRT. Comme je vous ai dit, donc, à partir de 1998, les chercheurs chinois ont la possibilité de participer au programme cadre. Alors, le résultat est très positif parce que donc, le 5e PCRT s'est terminé donc, l'année dernière, en 2002. Alors, le résultat est très positif. Donc, les chercheurs chinois ont participé totalement donc, à 72 projets, dont 39 sur le INCO 2. Alors, il y a 7 sur le Science de la vie, il y a 12 sur Société Information, il y a 3 sur Growth, il y a 9 sur Environnement et Énergie, il y en a 1 sur l'économie. Alors, donc, pour la participation chinoise au 5e PCRT, alors, le coût du projet, donc, le programme thématique, on a investi donc, plus de 60 millions d'euros par les deux parties. Alors, pour l'INCO, il y en a 32 millions. Alors, le plus grand projet, on a dépensé plus de 8 millions d'euros. Alors, il y a une particularité de cette partition chinoise, c'est que le gouvernement chinois a pris la décision de soutenir tous les chercheurs qui sont inclus dans le programme cadre en leur donnant des fonds supplémentaires pour encourager la participation chinoise au PCRT. Alors, mais je vous ai dit toute la vérité qu'il y a quand même des éléments qui affectent la participation chinoise. Il y en a trois, comme j'ai remarqué. D'abord, la méconnaissance de PCRT et de la procédure de demande pour les chercheurs chinois, parce que donc, le programme 4 n'est pas très connu par les chercheurs chinois. Alors, deuxièmement, la difficulté venant de la recherche des partenaires européens, parce que pour la participation chinoise, il faut au moins trouver deux partenaires de pays différents en Europe. Troisièmement, c'est une critique que j'ai déjà donc parlé beaucoup avec nos amis de la Commission à Bruxelles, c'est que la complexité des procédures, parce que pour remplir des formulaires épais comme cela, les chercheurs chinois ont eu du mal de le faire. C'est trop compliqué pour nous. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais tout de suite donc, attaquer sur mon sujet principal de cette soirée, c'est la coopération sino-française. D'abord, la situation. La France est le premier pays occidental à avoir signé l'accord de coopération avec la Chine en science et en technologie. C'est le 21 janvier 1978. D'ailleurs, donc, le 21 janvier, en 2003, c'est-à-dire dans à peu près une semaine, je vais organiser une soirée pour fêter le 25e anniversaire de cet événement à notre ambassade. Alors, donc, on a... Le domaine est très vaste de coopération. On a donc réalisé depuis 25 ans plus de 4000 projets. On a eu donc plus de 70 protocoles ont été signés entre les instituts, par exemple entre le CNRS, l'Académie des sciences, entre l'INRA et les partenaires chinois, etc. Donc plus de 70 protocoles. Alors, donc, il y a aussi donc, l'aspect de la coopération régionale qui est bien développée. Je cite un exemple, donc, la région Rhône-Alpes avec la région de Shanghai. Donc, la coopération sur la science et la technologie s'est bien déroulée. Alors, donc, il y a aussi l'aspect de la participation industrielle à la coopération. Je voudrais citer donc, EDF et Framatome, toutes les deux ont signé l'accord avec la Chine sur la coopération en recherche et développement. D'ailleurs, donc, on a réalisé plusieurs projets. C'était donc bien apprécié. Alors, plus de 10 laboratoires conjoints ont été créés ou en cours de préparation, de création. Je vais y revenir en vous donnant des détails sur ces laboratoires. Alors, il y a plus de 20 000 chercheurs et ingénieurs échangés. Alors, plus de 11 000 étudiants chinois actuellement en France. Ce chiffre, je pense que c'est inférieur à la réalité. Je pense qu'il y a à peu près 15 000. Je n'ai pas de chiffre exact. Alors, la structure de la coopération entre nos deux pays. D'abord, la coopération intergouvernementale, c'est-à-dire la coopération officielle, on a donc ce qu'on appelle une commission mixte entre les deux gouvernements, dans laquelle, pour la partie chinoise, c'est le ministère de la science et de la technologie, l'Académie des sciences et donc la fondation. Il y a l'Académie des sciences de l'agriculture, l'Académie des sciences de la médecine, etc. Il y a le ministère de la santé, ministère de la culture, ministère d'informatique, etc. Pour la partie française, donc, il y a ministère des affaires étrangères, ministère de la recherche et de la technologie, Et les autres grands instituts comme CNRS, CNES, l'INRA, CIRAD, INRIA, INSERM, etc. Donc, IFREMER. Alors, donc, la réunion de session donc, se réunit donc, tous les deux ans. D'ailleurs, la dixième session donc, a eu donc, lieu le 25 octobre 2002 à Pékin, en présence de Madame la ministre Claudia Henry. Alors, donc, la coopération régionale, donc, y a des, la structure a été arrangée entre les régions concernées. Les domaines de coopération sont très vastes, comme je vous ai parlé. Vous voyez, donc, mathématiques, physique, chimie, astronomie, géologie, agriculture, médecine, biologie, biotechnologie, matériaux, aéronautique, espace, informatique, télécommunications, transport, énergie, énergie nucléaire, météorologie, sismologie, environnement, océanographie, architecture, propriété intellectuelle, métrologie, etc. Vous voyez, donc, vous avez bien remarqué, donc, je pense que donc, notre coopération a couvrir donc, presque tous les domaines de la science et de la technologie. Alors, en ce qui concerne le financement, donc, comme je vous ai parlé donc, tout à l'heure, on a suivi les principes internationaux. Les deux parties partagent les frais de séjour et les actions de coopération. Par exemple, donc, ça c'est pour les financements des deux gouvernements et des régions. Il y a des projets de commission mixte. Il y a le PRA, je vais donc parler de ça plus tard. Le P2R aussi. La Maison sino-française de la science et de la technologie. Sur tous les trois sujets, je vais vous présenter un peu plus tard. Alors, donc, pour la coopération régionale. Alors, donc, il y a aussi donc, la participation au programme cadre PCRT. Alors, donc, bien entendu, il y a des financements venant de l'Union européenne. Il y a des financements des organisations internationales, comme la Banque mondiale, l'ASEM, aussi donc la Banque du développement d'Asie, etc. Alors, le financement toujours, donc, venant aussi, donc, une partie venant des entreprises, des entreprises qui participent au programme. Il y a donc aussi des financements venant des fondations. Je voudrais vous citer une fondation qui s'appelle la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications, qui a été fondée en décembre 2001 à l'Académie des sciences de France, par professeur Jacques Kang, je pense. Il est présent ce soir en audience, à qui je voudrais saluer pour tous ses efforts. Alors, donc, ils ont déjà attribué donc, 8 bourses en 2002 de post-doctorat à très haut niveau. En 2003, il compte d'attribuer donc, plus de 25 bourses pour les post-doctorats chinois. Alors, donc, comme je vous ai promis, alors là, je vais parler donc de programme de recherche avancée. C'est un programme qui a été signé donc en 1991 par professeur Song Dian et professeur Hubert Gurien, tous les deux étaient ministres de la recherche de la technologie à l'époque pour le gouvernement chinois et pour le gouvernement français. Alors le financement à peu près donc de 10 millions de francs, l'ancien franc, par an, partagé par la Chine et la France, c'est-à-dire par les deux gouvernements, parce que c'est un programme gouvernemental. Alors, donc, les disciplines donc, sont comme suit, biologie, biotechnologie, environnement, matériaux, technologie de l'information, sciences de la Terre. À bientôt, on va donc élargir le champ de coopération, j'espère au moins. Alors, donc, on a, entre donc 1993 et 2001, on a réalisé donc à peu près donc 255 projets. Alors, on a eu des publications très nombreuses, c'est de plus de 250 publications communes. Alors, donc, il y a 14 villes chinoises ont été concernées et 16 villes françaises. Le mécanisme, c'est le comité de pilotage dont les membres sont des experts désignés par les deux gouvernements. Alors, ce comité se réunit tous les ans. Et aussi, donc, en France, à Paris, il y a eu l'Association franco-chinoise pour la recherche scientifique et technologie qui est chargée de gérer le bon déroulement de ce programme. Il fait un très bon travail. Alors, donc, il y a un autre aspect, ce sont les laboratoires conjoints. Laboratoire conjoint, c'est une des modalités tout à fait récentes. Mais d'ailleurs, c'est un très bon moyen d'approfondir la coopération, d'ailleurs, qui est déjà reconnue mondialement. Alors, donc, les laboratoires conjoints entre la Chine et la France, il y en a plusieurs. Je vais vous citer selon ce que je sais. Donc, d'abord, donc, le laboratoire d'informatique automatique et de mathématiques appliquées, qui s'appelle donc l'IAMA, qui a donc, je vais préciser donc ce laboratoire parce que c'est le premier laboratoire commun entre la Chine et la France. Je vais vous donner des informations plus précises. Alors, donc, il y a aussi l'Institut d'hématologie de Tianjin avec l'Institut des vaisseaux et des sangs à Paris. Il y a le laboratoire de traitement des eaux, qui est donc de l'Université de Tongji à Shanghai, et pôle européen de l'Université de Montpellier. Laboratoire commun de la catalyse, ça a été donc créé par l'Institut de chimie et de physique de Dalian, se trouve au nord de Chine, et le CNRS. Alors, laboratoire sino-français de chimie et d'environnement, donc Université des sciences de technologie de la Chine de l'Est à Shanghai, et aussi donc réseau génie des procédés au sein du CNRS de Nancy. Là, donc, il y a nouvellement donc, il y a un pôle en sciences du vivant et du génome qui vient d'être inauguré lors de la visite de Mme Henry à Shanghai. Donc, c'est tout récent. Alors, donc, ça a été créé par l'Université de la médecine numéro 2 de Shanghai. Donc, d'ailleurs, c'est une université, traditionnellement, on enseigne le cours en langue française pour une partie des étudiants. Alors, aussi côté français, il y a le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur. Alors, donc, il y a aussi le laboratoire mathématique qui se trouve à l'Université de Fudan avec le CNRS, laboratoire de matériaux c'est une coopération entre l'Institut des matériaux de l'Académie des sciences et le CNRS, laboratoire de supraconduction, qui est en cours de préparation, n'est pas créé, donc qui est donc dont les partenaires est donc l'Institut des métaux non ferreux, qui se trouve à Sien. D'ailleurs, c'est une ville non seulement donc scientifique, très scientifique, mais aussi culturelle, touristique. Aussi, c'est là où on a des soldats déterrés. Et aussi, aussi avec les CNRS à Grenoble, donc laboratoire de basse température. Alors, le centre de recherche sur le plateau Himalaya, on est en train de discuter là-dessus, entre l'Académie des sciences et le CNRS. Il y a aussi quelques laboratoires qui sont en cours de préparation, de création. Il y a un laboratoire de composition propre entre l'Université de Zhejiang, qui se trouve à Hangzhou, à côté de Shanghai et le CNRS, laboratoire de la technologie glycogénique entre l'Académie des sciences de Chine et le CNRS. Alors, donc, finalement, donc, il y a un centre franco-chinois dans l'environnement qui se trouve à l'Université de Tsinghua. Donc, d'ailleurs, donc, c'est le ministère de recherche et de technologie qui s'en occupe. Voilà, donc, ce sont des laboratoires, selon ce que je sais, qui sont déjà créés ou bien qui sont en cours de préparation. Alors, donc, comme convenu, alors, je vous parlerai un peu en détail sur le LIAMA. Le LIAMA, c'est le laboratoire donc, informatique, automatique et mathématique appliquée, qui a été créé donc, par un accord qui est signé en janvier 1997 entre l'INRIA et l'Académie des sciences, qui se trouve actuellement donc, à l'Institut automatique de l'Académie des sciences, qui est donc dans un quartier très scientifique de haute technologie de Pékin, à l'ouest de Pékin. Et l'accord a été renouvelé en janvier 2000, c'est-à-dire maintenant donc, on est entré dans la seconde phase. Alors, cette année, on va terminer donc, la seconde phase, on va entrer dans la troisième phase. Le partenaire a été élargi au CNRS et au CIRAD. D'ailleurs, le co-directeur côté français est un professeur venant, chercheur venant du CIRAD actuellement, côté français. Alors, donc, financement, donc, les deux gouvernements donc, leur donnent donc, 2 millions de francs, par an, l'ancien franc, pour le fonctionnement qui est partagé. Alors, les projets financés par les gouvernements, par les entreprises et aussi par les organisations internationales, par exemple, ils ont des projets financés par la Banque mondiale et par l'Union européenne aussi. Alors, plus de 50 projets ont été réalisés depuis 6 ans. Et plus de 30 chercheurs post-doc français et chercheurs y travaillaient. Alors, le co-directeur, donc, pour la phase, ton première phase, pour la partie chinoise, c'est ce professeur Song Dema, qui est actuellement donc, le vice-ministre de la recherche. Côté français, c'est M. Olivier Monga. Pour la seconde phase, le professeur Bo Ganghu, qui venant du Canada, qui a travaillé, donc, qui a fait sa thèse au Canada. Alors, donc, pour le côté français, c'est Philippe de Réfé, qui est donc un chercheur, comme je vous ai dit, du CIRAD. Voilà, donc, un peu de détails sur le LIAMA. Alors, donc, maintenant, donc, je vous parle donc, sur un autre sujet, qui est aussi tout récent, qui s'appelle Maison sino-française de la science et de la technologie. L'accord a été signé le 25 octobre 2002 lors de la visite en Chine de Mme Claudie Henneri, Mme la ministre. Alors, donc, sur le principe de cofinancement, coprésidence, alors, il y a des soutiens des industriels sous forme d'une sorte d'association. Alors, les principaux rôles de cette maison seraient, parce que la maison n'est pas encore créée, alors, la promotion de la coopération, bien entendu. Il y a donc présentation de partenariats scientifiques et industriels, organisation des séminaires, et ça serait un point de rencontre pour les chercheurs, les industriels et les ingénieurs. Alors, il y aura un site web et aussi donc préparation de nouvelles actions de coopération. Alors, cette maison, je pense côté français, aussi donc côté chinois, on a nommé donc les co-directeurs. Le côté français, le nouveau co-directeur, c'est M. Olivier Kongva. Il était l'ancien directeur, co-directeur de l'IAMA. Je pense qu'il est en train de préparer sa mission pour la cahier de charges et des missions. Côté chinois aussi, on a nommé le co-directeur. Je pense que donc, ils vont se mettre tout de suite au travail. Alors, il y a aussi une autre nouveauté, c'est le programme de recherche en réseau qui vient d'être démarré. Je pense que le démarrage est prévu pour l'an 2003, selon ce que je sais. Le premier appel d'offres a été déjà lancé. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche en réseau? C'est donc trois et cinq laboratoires de même discipline de chaque partie forment donc un réseau. Autrement, donc, ce serait donc entre 6 et 10. Alors, ils pourraient donc mener des recherches en commun à long terme et organiser des colloques et séminaires. Et aussi, donc, échange des chercheurs, post-docs et boursiers, etc. Alors, ils pourraient donc ensemble donc, faire la demande pour le projet dans le cadre de programmes internationaux, par exemple PCRD. Alors, chaque réseau serait financé à hauteur de 0,4 million d'euros par les deux gouvernements, selon ce que je sais actuellement. Peut-être un peu plus, s'il fonctionne bien. Alors maintenant, donc, je voudrais vous donner mes commentaires sur la coopération sino-française, parce que ça fait longtemps que je travaillais, je suis responsable de la coopération bilatérale. J'ai quand même quelques commentaires très personnels. Si vous, donc, vous trouvez que ce n'est pas tout à fait correct, vous pouvez me critiquer. D'abord, je pense qu'il s'agit d'une coopération très fructueuse, je pense. Pourquoi fructueuse? Parce qu'il y a de très bons résultats. Par exemple, je vous parle de la prospection sur le plateau Himalaya. C'est un projet multidisciplinaire. Il y a donc la géologie, la climatologie, la chimie, la physique, télédétection, il y a astronomie, etc., qui ont été tous inclus. Donc, ce projet a duré 5 ans, qui ont fait, donc, je pense, que beaucoup de campagnes sur donc, le plateau Himalaya. On a eu de très bons résultats, c'est-à-dire qu'on a approuvé la théorie de Black. Alors, avant cela, les chercheurs ils ont pensé que le plateau Himalaya serait un résultat d'une collision entre le vieux continent asiatique et le continent indien. Alors, la réalisation de ce projet, on a approuvé cette théorie. On a eu des publications très nombreuses. Alors, on va créer, justement, comme résultat, un institut conjoint sur le plateau de l'Himalaya. On va continuer la recherche là-dessus. Alors, le deuxième exemple comme bon résultat, la sûreté nucléaire. Comme vous le savez, la Chine, il y a 10 ans, il n'existe pas le système de la sûreté nucléaire. Alors, c'est grâce à la coopération sino-française, des centaines d'ingénieurs ont été formés en France, notamment au COA, et aussi au ministère de l'Industrie. Alors, on a aussi mis sur pied le département de la sûreté nucléaire de Chine. Alors, pour le bon fonctionnement de ce département, on a tiré beaucoup des expériences de la France pour assurer la sûreté nucléaire. Alors, ça serait mon premier. On a de très bons résultats. On a aussi établissement des relations étroites, amicales entre les chercheurs et ingénieurs, bien entendu, après 25 ans de coopération. On a aussi fondé une base très solide pour la future coopération. Et aussi, ce qui est tout à fait remarquable, on a beaucoup de retombées industrielles et économiques. Alors, comme j'ai souligné très souvent, que la coopération et la coopération scientifique, technique auraient à voir des retombées industrielles. Alors, voici quelques exemples. On a des centrales nucléaires. Actuellement, on a 4 réacteurs français fabriqués par Framatome qui fonctionnent actuellement en Chine. Et d'ailleurs, on aura souhaité dans le futur, il y aura d'autres réacteurs français qui seraient mis en place en Chine. Dans le domaine automobile, le PSA a eu de très bons résultats. Il y a beaucoup d'automobiles Citroën qui circulent dans les villes, aussi bien dans les villes et dans la campagne chinoise. Alors, dans le domaine industriel pétrochimique, il y a beaucoup de usines pétrochimiques qui ont été réalisées en coopération entre la Chine et la France. Il s'agit d'une coopération très fructueuse. D'ailleurs, il y a quand même des insuffisances. Des insuffisances, d'abord, je pense que l'ampleur de la coopération ne correspond pas à la bonne relation entre les deux pays. La France est le second partenaire européen de la Chine, derrière la coopération sino-allemande. Alors d'ailleurs, ce sont les propos de hauts responsables de la recherche technologique des deux pays. Donc, je pense que, qu'il a été reconnu par, par tous les deux pays. Alors, il y a aussi l'insuffisance des investissements, bien entendu. Il y a aussi des insuffisances dans le domaine des échanges. Je vous donne donc les chiffres parce que je vous ai dit, il y a 11 000 étudiants en France. Voyez les chiffres. Il y a 18 000 en Allemagne. Il y a 24 000 en Grande-Bretagne. Il y a 200 000 étudiants aux États-Unis. Voyez donc les chiffres. C'est pour ça que je qualifiais la coopération, elle est insuffisante. Alors, donc, il y a aussi l'insuffisance de la connaissance mutuelle entre les chercheurs chinois et les chercheurs français. Nous devons donc travailler davantage là-dessus. D'ailleurs, donc, je pense que maintenant, actuellement, la coopération sino-française est entrée dans la meilleure période depuis 1964, l'année où l'on établit les relations diplomatiques entre la Chine et la France. Les deux parties ont pris des mesures pour renforcer cette coopération axée sur les trois piliers suivants. La coopération politique, bien entendu. Alors, donc, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur de Villepin, il était en Chine il y a deux jours, en consultation avec le gouvernement chinois. Je pense qu'il a eu très bon résultat. Il a fait un discours à l'université de Fudan, je pense, à Shanghai. Alors, donc, d'ailleurs, la coopération économique, qui ne cesse d'augmenter. Alors, donc, la coopération aussi donc, culturelle, au sens large, parce que, y compris donc, la science et la technologie. Et donc, je pense que tout le monde le sait, mais je vous informe quand même, de décembre 2003 à juin 2004 serait l'année de la Chine en France. Il y aurait des événements culturels, scientifiques, économiques, etc. Mais également, de septembre 2004 à juin 2005, serait l'année de la France en Chine. Alors, il y a également, je pense, beaucoup d'événements très importants. Alors, dans ce contexte, je pense que la coopération scientifique technique serait renforcée. D'ailleurs, je souhaite vivement que nous travaillons ensemble pour donc, donner des résultats encore positifs et donc pour que les chercheurs chinois et les chercheurs français puissent travailler davantage. Et voici la fin de mon discours. Merci de votre attention. Merci.
Je voudrais avoir des informations plus précises dans la répartition de ce que vous avez appelé sciences naturelles, à savoir, je voudrais connaître un tout petit peu le détail des différentes sciences dures, notamment mathématiques, physique théorique, biologie moléculaire, etc., dans votre rubrique. Le deuxième point que je voudrais que vous élucidiez, c'est de savoir si vous avez l'intention de développer sur le mode de l'Institut sino-français de Fudan à Shanghai, ce type de coopération et de structure, ou alors si vous envisagez ce type de structure maintenant sur un plan européen. Merci.
Voilà, c'est une question très intéressante parce que je pense, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que donc, je pense que la recherche fondamentale, que ce soit la mathématique, la chimie, la physique, etc., est très importante pour le développement d'un pays sur la science et la technologie. Ce que je trouve que donc, le soutien du financement pour, envers donc, la recherche fondamentale est largement insuffisant. Alors, donc, je souhaite d'ailleurs vivement, d'ailleurs, je pense que le gouvernement chinois a déjà pris la décision de soutenir davantage la recherche et développement donc, pour la recherche fondamentale. Alors, je pense que donc, dans tous ces secteurs, nous allons donc donner plus de liberté aux chercheurs et professeurs pour les encourager de travailler sur leurs propres idées, d'ailleurs, D'ailleurs, quand tout à l'heure, je voulais expliquer qu'il y a donc le programme 976. 976, donc, ce sont un programme gouvernemental. Il y a une bonne quarantaine de projets, mais tous les projets sont fixés par le gouvernement. D'ailleurs, donc, je pense qu'il faut renforcer d'autres aspects, de donner plus de moyens aux professeurs, aux chercheurs, de travailler sur leurs propres idées. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne donc, les universités à Shanghai, le Fudan, et Tongji et Jiaotong, je pense que Shanghai, c'est une ville très dynamique. C'est une ville très dynamique, je pense, pour laquelle je donnais plus d'espoir. Je pense que donc, Shanghai vient d'obtenir donc, le droit d'organiser donc, l'Expo universelle à 2010. Je pense que c'est une occasion. C'est une occasion pour cette ville de développer non seulement leur économie, mais aussi donc, de développer la science et la technologie. Donc je pense que la Shanghai serait beaucoup plus ouverte. D'ailleurs, Shanghai, c'est une ville très ouverte. Très ouverte donc, vers le monde extérieur. Ils ont une vieille tradition de coopérer avec le monde extérieur. Je pense que donc, cette ville serait beaucoup plus ouverte pour trouver des coopérations internationales.
Même question que je voulais vous poser. Comment infléchir la recherche fondamentale qui est à 5% et le nombre des étudiants qui sont en ingénierie et en économie presque 50%. Comment vous voulez faire? Parce que c'est différent de la France et c'est comment vous cherchez les méthodes pour développer la recherche fondamentale.
Voilà, monsieur le professeur, c'est aussi donc une bonne question. Alors, donc, à tout à l'heure, je vous ai présenté donc, à la répartition disciplinaire pour les étudiants. Alors, c'est sûr, donc, maintenant, il y a plus de 37% des étudiants qui font donc, leurs études sur l'ingénierie. Mais je pense que donc, ce chiffre va se diminuer, je pense. Mais donc, il y a de plus en plus d'étudiants qui vont travailler sur l'économie et aussi sur les droits. Sur les droits, donc, ça... Et d'ailleurs, c'est une tendance qui se trouve donc, partout dans le monde entier. Mais alors, en ce qui concerne donc, la recherche fondamentale et les nombres d'étudiants, il est certain qu'ils ne sont pas beaucoup, mais je pense que si le gouvernement chinois va prendre des mesures, prendre mesures en renforçant les moyens de soutien en faveur de la recherche fondamentale, il y aurait de plus en plus d'étudiants qui vont travailler dans le domaine de la science naturelle, science dure. Et deuxièmement, et je pense que ça d'ailleurs, donc, ça a été donc, la réalité, c'est que par exemple, la Fondation nationale de la science naturelle a eu donc, des financements de plus en plus importants. Alors je pense, selon mes chiffres et corrects, en 5 ans, ils ont dû quadrupler leur budget. Ce serait donc encore donc, des moyens pour soutenir les recherches fondamentales.
Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. La première, c'est à propos de la propriété intellectuelle. Vous avez passé un transparent, une image à ce sujet. Je crois comprendre que le développement de l'électronique à son plus haut niveau, de la même façon que la biotechnologie, sont limités d'une certaine façon en Chine, du moins au niveau des coopérations internationales, par le problème de la propriété intellectuelle. Aussi bien les chercheurs américains et les entreprises que les chercheurs et les entreprises françaises ou allemandes ou britanniques redoutent que leurs brevets et les connaissances soient en fait copiés, recopiés et ensuite effectivement les royalties passent ailleurs. Donc je voudrais savoir ce que la Chine prépare et comment elle peut se prémunir mieux du phénomène de la copie. Ma deuxième question est bien plus large, c'est à propos de votre programme spatial habité. Pourquoi envoyer un Chinois en orbite? Est-ce vraiment une question fondamentale pour l'image de la Chine aujourd'hui dans le monde? Est-ce que c'est la façon de démontrer que la Chine va être la grande puissance du XXIe siècle?
Merci. Donc, ce sont des questions très intéressantes. Je voudrais essayer d'expliquer. D'abord, pour donc, le problème de donc, la propriété intellectuelle industrielle, je pense que c'est une question très importante. J'avoue que donc, dans, il y a quelques années, les Chinois, que ce soit les chercheurs, les industries, ils n'avaient pas de connaissances très profondes sur donc, ce question-là. Alors, donc, il existait des problèmes de copie, même donc, sur donc, ils ont commis des problèmes. Alors, donc, c'est ça. Donc, après, donc, je pense que c'est à partir de 92. Alors, si on a donc confondu un problème. Si on voudrait signer donc un contrat ou bien signer un accord avec un partenaire étranger, donc les articles concernant donc la propriété intellectuelle étaient un peu obligatoires. Alors cela nous a obligés de réfléchir là-dessus. Alors donc c'est vrai donc on a eu un peu de retard sur ce genre de problème. Et puis de l'or, on a créé des groupes, des comités spéciaux pour réfléchir là-dessus, non seulement donc, au sein du ministère de la Science et de la Technologie, mais au sein des autres ministères, même donc, de l'Académie de Sciences de Chine. Alors finalement, après cela, tous les accords, toutes les conventions signées, ont inclus l'aspect de la propriété intellectuelle. C'est vrai, actuellement, donc, il existe encore des piratages, des copies, etc. Mais je pense que ce phénomène se diminue considérablement déjà. Alors, je pense que donc, il existe quand même des problèmes là-dedans, mais je pense qu'au fur et à mesure du développement de l'ouverture vers l'extérieur, ce genre de problème serait donc résolu encore avec succès. En ce qui concerne votre deuxième, il s'agit de quoi, excusez-moi ?
C'était la question sur l'espace.
Ah, de l'espace. Alors, le vol habité. Le vol habité, d'abord, il y a une nécessité. Parce que alors là, donc, on a un grand besoin de faire des expériences dans l'espace. D'ailleurs, il y a donc un gros projet. D'ailleurs, dans la Chine, donc, n'a pas participé, c'est le donc ISS, c'est le donc International Space Station. Donc, je pense que l'Europe a participé, l'ensemble de l'Europe a participé, dans lequel il y a la Russie, le Japon, les États-Unis, etc. Donc, c'est un programme beaucoup plus ambitieux que celui de la Chine. D'ailleurs, donc, chez les chercheurs, il y a un besoin de faire des expériences dans l'espace, dans les laboratoires de l'espace. Par exemple, il se passe des choses donc, sous conditions de microgravité, de pesanteur. Donc, il se passe des choses qu'on ne peut pas réaliser actuellement sur notre planète. Deuxièmement, donc, pour l'instant, il y a la possibilité. Il y a la possibilité parce que Notre programme n'est pas ambitieux que celui de ISS parce que donc on a des moyens très modestes, mais on a actuellement, au fur et à mesure du développement de l'économie chinoise, le gouvernement a la possibilité de soutenir ce genre de programme en disant que donc notre station, notre futur laboratoire spatial serait beaucoup plus petit que la station internationale.
Ma seule question, c'est où en est la formation des masses populaires et quels sont les moyens techniques que le gouvernement a comme moyen pour élever le niveau et donner une formation technologique supplémentaire, alors que l'Europe, la France d'une manière générale, par certains moyens médias, on pense plutôt à l'Audimax qu'à vraiment former, à part certaines comme choses, comme droit de savoir et d'autres expériences de formation populaire.
Merci, monsieur. C'est une question très, très importante. Je pense que donc on a déjà bien remarqué l'importance de ce problème. Alors donc justement l'an dernier, on a organisé une conférence nationale donc pour favoriser le développement de la science par donc donner plus de connaissances aux jeunes, à la population de masse. Alors donc je pense qu'on a pris des mesures en créant beaucoup de musées scientifiques, technologiques, et aussi donc on a créé des parcs de la science et de la technologie. On a aussi organisé, on va aussi organiser beaucoup de conférences, de colloques en faveur de la connaissance aux jeunes sur la science, la technologie. De toute façon, une série de mesures seront prises en faveur de ce problème. Merci, c'est très important.
Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, j'avais deux questions, mais je vais être très rapide parce que vous avez déjà répondu à la première. Ça concernait la station spatiale internationale. Donc, ma deuxième question, ça concerne le programme de recherche en réseau. Je voulais savoir s'il était ouvert aux industriels.
Ça a été, je pense que ça serait ouvert aussi aux industriels. Je pense aux laboratoires industriels. Je pense que donc, ce programme donc, serait démarré donc, au cours de cette année. Je pense que donc, le premier appel d'offres a déjà lancé. D'ailleurs, donc, je vais rencontrer donc, les partenaires français en précisant les détails de ce programme. Alors, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Donc, on n'a pas encore fixé donc, les grandes orientations, mais je suis sûr que les industriels seront donc inclus, je suis sûr, à mon avis.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre conférence et je me réjouis de l'augmentation et du développement de la Chine dont vous avez fait état. Cependant, il existe une grande diversité en Chine et en particulier dans l'ouest de la Chine et le Tibet. Il y a une grande pauvreté et suite notamment à la révolution culturelle, de nombreux Tibétains sont partis en exil. Et il y en a 150 000 donc, qui sont en Inde et dans différents pays. Le Dalai Lama ne demande plus l'indépendance depuis 1980. Et il y a un formidable espoir qui est né récemment, puisque des émissaires du Dalai Lama ont été reçus à Pékin et à Lhasa. Donc il y a une possibilité de commencer un dialogue. Ne pensez-vous pas que, étant donné la grande popularité du Dalai Lama de par le monde, et le grand intérêt que le monde a pour la sagesse de cette personne et de sa lutte non violente, est-ce qu'il ne serait pas important que la Chine commence aujourd'hui un dialogue authentique avec une personne qui ne demande plus l'indépendance, mais qui demande de façon authentique à dialoguer avec vous, de façon à pouvoir coopérer avec vous?
Alors, je pense que vous avez raison d'indiquer qu'il y a une grande différence sur le développement à l'est et à l'ouest, c'est sûr. Ben, la Chine, donc, malgré des progrès que je vous indiquais, la Chine reste un pays très pauvre, d'abord. D'abord, très bien, parce que je vous ai donné des chiffres indiquant que la Chine est la sixième puissance du monde en économie. Mais si on donc divise par 1,3 milliard d'habitants, le chiffre par tête est très, très, très limité. Donc, je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau de 1 000 $ par tête sur le PIB. Je pense que ce serait donc la raison pour laquelle, j'insiste toujours, la Chine est toujours un pays en voie de développement. En ce qui concerne la différence du développement entre l'Est et l'Ouest, c'est sûr. Parce qu'à Shanghai, donc, le PIB par tête est déjà donc dépassé je pense cette année, a dépassé 5 000 $ par tête. Et c'est d'ailleurs le cas aussi pour la province de Canton. Mais d'ailleurs, pour le Grand Ouest, non seulement au Tibet, mais aussi dans les autres provinces comme Xinjiang, comme Qinghai, comme Guizhou, d'ailleurs, donc, il y a une bonne dizaine de provinces qui sont concernées, les gens sont très pauvres. sont très très pauvres d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons mené donc un programme en vue de développer donc l'économie de Grand Ouest en leur donnant plus de moyens. On va réaliser des gros projets, etc. Ça, c'est vraiment, c'est donc la raison pour laquelle je vous dis, vous avez raison. En ce qui concerne le Dalai Lama, etc., vous savez, donc, mon but est de vous présenter la recherche scientifique en Chine. Je ne suis pas en mesure de répondre à tout genre de questions politiques. Je ne suis pas politicien, je suis un chercheur, ingénieur. Excusez-moi.
Monsieur Wang Chaoxi, je vous remercie.